n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Laisse pas béton.
Bonjour à toutes et tous, auditrices et auditeurs de Laisse pas béton. Bienvenue dans cette sixième émission qui marque le retour du direct. En effet, notre première émission date du 11 mars, juste avant le confinement. On avait dû enregistrer les autres par la suite dans le foyer de lutte anticarcérale à Anderlecht et les détenus et familles de détenus s'étaient exprimés via des appels et interviews téléphoniques. Aujourd'hui, on est donc de retour sur le plateau de Radio Panique à écouter sur 105.4 FM ou sur radiopanique.org. Et pour cette reprise, nous sommes trois sur le plateau. Bonjour Maya.
Salut, salut.
Et bonjour Exception.
Bonjour, bonjour.
Alors d'abord, Maya, aujourd'hui on va parler de quoi ?
Aujourd'hui, on va prendre le temps de l'émission pour écouter ce que ça implique d'être une proche, une mère ou une femme de quelqu'un d'incarcéré. Et pour ça, comme tu l'as dit Martin, nous accueillons Exception qui a été amenée dans sa vie à être confrontée à la prison. Pour débuter l'émission, on te propose donc, Exception, de te présenter.
Oui, voilà, je m'appelle Exception. J'ai 55 ans, j'ai un fils de 21 ans qui lui a été incarcéré. Et voilà, donc je vous raconterai la suite.
Merci Exception, merci pour ta venue aussi. Et donc en effet avec toi, on prendra le temps de discuter de tous les impacts que l'incarcération d'un ou d'une proche peut avoir sur une personne. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, comme à notre habitude, un petit tour des actualités.
Nous commençons avec une actu juridique qui sera appliquée au plus tard le 1er octobre 2020 et qui est importante parce que ça va pas mal changer la vie carcérale. Alors, une loi de 2005 va permettre aux détenus de porter plainte contre des décisions prises par le chef d'établissement où ils sont détenus. Moins réjouissant, une loi votée en 2019 va devenir effective et va rendre les tribunaux d'application des peines compétents pour les peines courtes. Les peines courtes, ça veut dire de moins de 3 ans. Alors concrètement, derrière ces termes un peu compliqués, ça veut dire qu'une personne condamnée à plus de 18 mois de prison devra de toute façon prester au moins un tiers de sa mène ou deux tiers pour les récidivistes. Et en dessous de 18 mois, la personne doit en principe purger également sa peine de prison, mais peut faire une demande de libération anticipée ou de surveillance électronique directement. Alors, derrière ces termes encore plus compliqués, ça veut dire que ça change beaucoup. Parce que jusqu'à présent, c'était le ministère qui gérait ces courtes peines, entre autres avec une circulaire qui faisait en sorte qu'en dessous de 6 mois, on n'allait en principe pas en prison. Et c'était plutôt le bracelet électronique. Ça renverse donc justement le « en principe ». Mais non, en principe, tu vas en tôle. C'est donc une loi qui risque vraiment d'augmenter l'incarcération. Et on sait ce qu'on pense de l'incarcération et de la surpopulation.
Alors, le 4 juin, il y a un appel qui est lancé par Getting the Voice Out, dont on en a déjà parlé dans cette émission. Le collectif appelle à une grande vigilance parce que les centres fermés ont été vidés pendant la crise du coronavirus. Et le déconfinement signifie qu'il y aura bientôt des rafles pour les remplir à nouveau. Cette crainte, elle sera confirmée notamment le 25 juin, parce que des dizaines de personnes sont arrêtées rue d'Arscott.
Alors, dans les mêmes jours, il y a une nouvelle condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme pour mauvais traitement envers des prisonniers. Et ce qui est intéressant, encore plus, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme assimile à des mauvais traitements les conditions imposées lors de la grève des gardiens en 2016.
Le 11 juin, la région de Bruxelles-Capitale approuve le lancement de la procédure de classement de la prison de Saint-Gilles. Donc l'objectif, c'est de faire de cette partie de Saint-Gilles un quartier urbain multifonctionnel.
Waouh !
Comprenez, les autorités confirment qu'elles veulent virer les détenus en périphérie de Bruxelles à Arun, et tant pis pour les proches qui galèrent à se rendre sur place. L'important, c'est d'attirer encore plus de bobos riches à Saint-Gilles.
Alors, le 17 juin, les détenus relâchés provisoirement pendant la crise sanitaire retournent en prison. Pendant ces 3 derniers mois, en effet, la population carcérale avait diminué de 10%. 1000 détenus se sont retrouvés à nouveau dans les rues. Et bon, il faut dire, il n'y a pas vraiment eu de flambée de violence pendant cette période.
Ensuite, le 20 et le 21 juin, il y a eu plusieurs actions et manifestations à Bruxelles et à Ostende. Et d'autres, dans leurs revendications, entre autres dans leurs revendications, pardon, il y a des luttes actuelles comme la répression, contre les prisons et contre les violences policières.
Le 22 juin, la Ligue des familles fait un appel à faire tout pour préserver le lien entre les personnes incarcérées et leurs proches.
Le 25 juin, des militants et militantes se postent devant la prison de Saint-Gilles afin de faire entendre des déclarations de proches de détenus à l'intérieur des prisons.
Merci à eux et elles.
Et toujours le 25 juin, environ 150 personnes se sont réunies sur la place de la commune de Saint-Gilles pour soutenir une interpellation communale afin de dénoncer les violences policières racistes et sexistes subies quotidiennement et accrues par le confinement. C'est un combat porté depuis près de 4 ans par des habitants et habitantes de Saint-Gilles et par le collectif des Madrés, dont on vous parlera plus tard dans cette émission. Il y a aussi eu des interpellations contre les violences policières, également à Forêt et à Anderlecht, 1070 RPZ. À suivre de près.
Alors le 27 juin, il y a l'arrestation de 11 personnes suite aux émeutes qui étaient survenues suite à la mort d'Adil, écrasée par une voiture de police la veille. Parmi ces arrestations, il y en a 5 qui ont été placées en IPPJ, donc ça c'est les institutions publiques de protection de la jeunesse, les prisons pour mineurs, et 2 ont été libérées mais restent soumises à des conditions très strictes. Donc ces arrestations, elles ont été assez rapides, et nous on se demande bien où en est l'enquête sur le décès d'Adil.
Le 29 juin, en fait depuis ce lundi, les juges de la jeunesse bruxellois ont mis en œuvre ce qu'ils avaient annoncé plus tôt. Donc plus aucun mineur déféré devant le tribunal en urgence, depuis ce lundi matin, n'est mis en détention. Tant qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, ils refusent d'enfermer ces jeunes. Une sorte de grève qu'on préfère largement aux grèves des matons qui pénalisent toujours les mêmes personnes, les détenus et leurs proches.
Alors le 30 juin, un peu d'un autre ordre, il y a la brèche. Vous voyez le journal à prix libre édité par le Génépi. Eh bien, ils font un appel aux dons afin notamment de pouvoir continuer à envoyer le journal en prison.
Alors le 2 juillet, il y a eu des rébellions au centre fermé 127 bis. Des personnes migrantes détenues font appel, et font un appel qu'on résume ici. Donc ces personnes, elles dénoncent les conditions indignes dans lesquelles l'État belge les maintient enfermés, notamment les gardiens irrespectueux et ultra-contrôlants, la distribution incessante de médicaments pour dormir, les menaces des gardiens, le manque d'informations, le manque de nourriture et l'absurdité de la justification des centres fermés. Ils exigent le respect de leurs droits, la libération et des réponses à leurs questions.
Voilà. Et parmi les mouvements des personnes qui sont incarcérées et les personnes premièrement concernées, eh ben voilà, là on va terminer ce tour d'actualité par un appel de proches de détenus à inonder les boîtes mail des autorités en charge des prisons pour demander la remise à la normale des visites. Alors cette initiative, elle se prend face au silence et à l'immobilité des autorités, le silence face à toutes les revendications qu'en fait les détenus et leurs proches ont émis. Et donc on va citer juste un peu des extraits d'une lettre qui a été écrite dans ce contexte. Citation, « Je me demande vraiment, et nous sommes nombreux à penser ainsi, qu'est-ce qu'on cherche ? Certainement pas le bien-être du détenu. C'est une évidence, mais alors quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Les détruire un peu plus ? Les fragiliser ? Détruire les familles ? Les liens importants ? De nombreuses femmes sont au bord de la dépression et ne vont même plus en visite tellement il est pénible de voir son conjoint sans pouvoir le toucher, l'embrasser. On frôle la torture mentale. En êtes-vous conscient ? Alors, vous trouverez l'intégralité de cette lettre et puis un peu l'appel officiel sur la page de Facebook La Claque No Prison et sinon sur d'autres groupes de solidarité de détenus et de proches. Voilà.
Et c'est avec ces phrases fortes que nous terminons le tour de l'actualité.
Alors après ce marathon d'actualité dont on s'habitue au fil des émissions, ben là on va revenir un peu au corps de l'émission, de ce qui nous amène aujourd'hui sur le plateau. Et donc, exception, je me tourne vers toi. Et j'ai envie de te poser une question un peu générale, mais voilà, c'est quoi comment t'as été confronté à la prison dans ta vie, et c'est quoi l'impact que là, comme ça, tu pourrais dire que ça a eu sur toi?
Ben, moi, j'ai côtoyé la prison suite à un passage de la police qui est venu chez moi à l'improviste dans les environs de 4-5 heures du matin. Et puis bon, là ils ont rien expliqué du tout, ils ont juste perquisitionné, ils ont mis mon garçon à part, Ils l'ont menotté, il ne pouvait pas s'asseoir ni rien du tout. Pas d'explication ni rien. Puis bon, ben, c'est vers la fin qu'ils m'ont dit qu'il était soupçonné d'agression et de vol. Voilà. Et puis bon, ben, c'est de là que c'est parti. Que j'ai dû aller voir mon fils pratiquement tous les jours à la prison pour voir comment il allait. Voilà, et l'impact que ça a eu sur moi émotionnellement. Et donc c'était l'angoisse, la panique, la peur, la crainte, la colère, le désespoir, l'incompréhension. Et par rapport à ce qui a été dit au passage, là, donc... On met les parents et les femmes en dépression et ils font tout pour détruire et le détenu et les familles. Il n'y a pas photo, ça c'est clair.
Parce que tu t'es un peu reconnue dans la lettre qui était écrite justement là quand il disait mais en fait couper les liens et incarcérer des gens, ça met les femmes, les familles en dépression, tu t'es reconnue là-dedans ?
Tout à fait, c'est par rapport à ça, c'est vraiment bien expliqué, c'est exactement ça.
Moi, j'ai l'impression toujours qu'on doit, que vous devez vous battre en fait pour rester en lien et que c'est à vous de vous battre alors que c'est pas normal et que c'est super difficile en plus avec tout ce qui peut arriver, genre des grèves et tout.
Oui, tout à fait, nous, là, c'est un vrai parcours de combattant, à n'y rien comprendre, que ce soit dans le domaine de l'intérieur de la prison, par rapport aux grèves, ils ont fait, mine de rien, comme quoi on pouvait aller rendre visite le lendemain à nos proches, donc ils ont fait... nous ont fait croire, espérer, et moi je suis arrivée devant cette porte fermée, à n'y rien comprendre, et là bon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et ça a duré pour moi une éternité, c'était plus ou moins entre 10 à 15 jours leur grève incompréhensible, pas d'appel téléphonique, pas de visite, et c'est encore pour devenir encore un peu plus fou, folle. Et voilà quoi.
À t'entendre, là j'ai l'impression que de l'arrestation à l'incarcération, c'est un des impacts qui est fort sur les proches, les mamans, ou j'imagine les femmes, les sœurs, c'est le manque d'information. En fait, on vous informe pas quand c'est quoi, de l'arrestation à l'incarcération.
Oui, et pas correctement. Hein. Donc je dis par rapport quand la police intervient, ils vous expliquent pas le pourquoi. Ils vous disent pas à l'avance. Donc on vous interdit. On sait pas pourquoi ils sont là. Ils le disent pas. Vous le saurez après. Donc en attendant qu'ils fassent entre guillemets leur travail, c'est-à-dire à mettre du désordre chez nous ou à tout casser entre guillemets, c'est la totale. Après pour ranger les sonvés, on pense pas à ça. Donc c'est vraiment pénible. Et dans la prison même, on se débrouille tout seul. Si c'est pas les autres familles, les autres mamans, les autres femmes de détenus qui expliquent aux nouvelles familles de détenus de comment ça fonctionne, on ne sait pas. On ne vous le dit pas, tout simplement.
Et c'est un peu une question, je ne sais pas s'il y a moyen d'y répondre, mais toi, tu penses, c'est pourquoi qu'on ne vous informe pas ? Parce que moi, en te connaissant, en rencontrant d'autres proches de prison, mais je me dis, mais l'information, elle est primordiale pour éviter que les gens angoissent et tombent dans le désespoir. Comment ça se fait que eux... Enfin, les autorités n'ont pas l'air de vouloir vous informer. C'est quoi ? C'est un mépris ? C'est un oubli ?
Non, moi je pense que c'est du mépris, certainement. Un oubli, sûrement pas. C'est plutôt voulu. Je pense que c'est un jeu pour eux. Ils jubilent en voyant la crainte, l'angoisse et le désespoir de tout ça. C'est peut-être ça les réconforte, peut-être pour eux, je ne sais pas. Je pense que c'est plus ça, quoi.
Et j'ai l'impression aussi que c'est parfois un moyen de faire ce qu'ils veulent, en fait, de pouvoir dire non, on refuse la visite, et toi, t'en sais rien de si tu peux l'avoir ou pas. Enfin, t'as pas les cartes en main, quoi, pour agir là-dessus.
Oui, tout à fait. Moi, pour moi, par exemple, pour aller visiter mon fils à la prison, si un jour il a suffi que j'oublie d'inscrire son nom, tout simplement. Donc j'avais pris rendez-vous et voilà quoi. Et ils ont refusé. Ils ont refusé alors qu'ils pouvaient simplement me permettre d'inscrire son nom sur place puisque j'avais ma feuille, tout simplement. Voilà.
C'est quoi ? C'est que parce qu'ils estiment qu'ils veulent aussi vous punir, vous les parents. Enfin, ce que je me dis, mais empêcher de voir son fils.
Oui, moi je le ressens comme ça. Vous êtes les fautifs. C'est encore plus pour vous dire, vous n'avez pas éduqué vos enfants comme il fallait. C'est de votre faute. Vous l'avez pas mis à, vous les avez pas obligés d'aller à l'école, alors que l'école est obligatoire. Je vois mal comment est-ce que j'aurais pas obligé mon fils à aller à l'école. Hein. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça. Ça y a pas photo quoi. Ça c'est clair. Voilà quoi.
Tu te sens toi stigmatisé comme mère de délinquant ou un truc comme ça ou...
Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est mon fils. C'est pas un délinquant. Il l'a jamais été. S'il est devenu ou s'il a fait une faille ou quoi que ce soit, de un, c'est la faute non seulement des policiers et de l'État. Je tiens à lui dire parce que non seulement je suis en colère contre la prison, mais je suis en colère contre l'enseignement. Parce que je vous explique en petit un petit résumé pour pas la faire trop longue. C'est que mon fils, on m'avait conseillé de le mettre dans un enseignement soit dit en type 8, donc voilà, pour ce quelconque petite difficulté éventuellement pas trop grave. Et là, d'une visite, d'une sortie devant la prison même, ils ont dit à mon fils, voilà ta future maison. Elle est pas belle, l'enseignement. Enfin, voilà.
Donc, si je comprends bien, lors d'une visite dans Bruxelles, il y a le prof qui a dit à ton fils, voilà, c'est là que tu vas terminer, quoi.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, je suis en colère, non seulement sur la prison, mais sur l'enseignement. Donc, si j'étais fils de milliardaire ou fille de riche, jamais j'aurais mis mes enfants dans une école de l'État. J'aurais fait tout privé ou bien j'aurais enseigné moi-même, tout simplement.
Ouais, je trouve ça hyper fort parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais là c'est vraiment un exemple concret qui peut paraître inodin pour certaines personnes, mais qui montre exactement comment, ben oui, la prison elle va s'appliquer beaucoup plus à des personnes qui peuvent venir d'un milieu plus précaire, donc des écoles plus précaires, qui peuvent venir d'origine immigrée, donc avec tous les stéréotypes qui vont, par rapport à un jeune blondinet de Huc, entretenir les stéréotypes. Mais voilà, c'est ça. Je trouve que ça monte fort, ça.
Oui, je rejoins ce que tu dis, parce que c'est tout à fait ça. T'as la malheur de t'appeler Mohamed, t'as pas de boulot, même que tu as fait des études, même que t'es diplômé, tu n'auras jamais le boulot. Mais tu t'appelles Frédéric, t'as pas terminé tes études, il n'y a pas de souci, mon coco. Tu seras un architecte et le pognon coule à gogo, quoi. Il n'y a pas photo.
Ben, on va maintenant passer une musique de Mike Brandt, donc de ton choix, Exception.
Merci beaucoup parce que c'est un combat pour moi.
Bats-toi, serre les poids et bats-toi contre ceux qui veulent t'empêcher d'être heureux. Et tu seras libre, mais quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Oh non, bats-toi, serre le poing et bats-toi contre ceux qui pensent qu'ils sont plus forts que toi. La vie de chaque jour est à mal, relève-toi, relève-toi. l'air d'être heureux.
Alors, nous sommes de retour sur le plateau de l'ESPA Béton, sur 105.4 FM Radio Panique. Et je suis toujours en présence de Maya et Exception.
Coucou.
Coucou.
Alors, là, quelque chose que tu as dit là juste avant Mike Brown, et qui m'a rappelé en fait, parce que voilà, nous, on s'est rencontrés devant la prison de Saint-Gilles, hein, Exception. Mm-hmm. Et t'as dit, mais s'il n'y a pas de solidarité entre les proches, les parents détenus par rapport à l'information, en fait, c'est encore plus le désespoir. Et je me demandais un peu comment ça se passait avec les agents pénitentiaires, parce que t'avais expliqué, je me souviens que t'avais un peu expliqué que parfois il y a des choses qu'on pouvait dire aux proches, qu'ils ne devaient pas amener trop de richesses, trop de vivres pour les détenus, parce que sinon, les agents pénitentiaires, ils expliquaient ça, que si vous ameniez trop de vivres ou trop de vêtements aux personnes qui étaient détenues, ben en fait, ça allait faire croire à tout le monde qu'ils étaient riches et donc ils risquaient d'avoir des problèmes à l'intérieur des prisons. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça ou si tu te rappelles de choses que les agences pénitentiaires ils peuvent faire envers vous qui ne sont pas toujours faciles, ou est-ce que la relation se passe bien, justement?
Oui, je me souviens qu'ils avaient dit que les vêtements... Ils nous ont donné en fait une liste de vêtements par rapport, donc avec très peu de, par exemple deux ou trois pantalons, deux, trois t-shirts, ça dépendait des couleurs aussi. Je pense que par rapport à la richesse, ça je me souviens plus très bien, parce que ça c'est complètement un oubli. Par rapport à ça, mais par la tenue vestimentaire, ils nous ont donné une liste avec peu de vêtements à ramener. Par rapport aux visites avec les gardiens, donc moi je me souviens juste d'un truc qui m'avait pas mal énervé, c'est que moi je suis de... Je suis musulmane, hein, mais je ne mets pas le voile, je ne porte pas le foulard. Mais simplement, j'aime bien mettre mon bandeau, un simple bandeau. Et apparemment, ça a dérangé un gardien qui, d'office d'entrée, me disait... Alors qu'à l'entrée, on me l'interdisait pas. Donc vraiment, à l'intérieur des portiques et tout ça, ces gardiens-là... ne m'ont pas fait de reproches par rapport à mon bandeau. Et moi, je le mettais parce que j'avais pas le temps de me coiffer. Je voulais faire bonne apparence par rapport à mon fils qui me voit un peu bien. J'avais pas eu le temps de mettre la couleur à mes cheveux. Et c'est toi et ta chance avec les gardiens. C'est ça que j'ai compris. Un gardien m'a dit non, madame, vous retirez votre bandeau. Et là, j'ai complètement pleuré parce que je voulais pas que mon fils me voie mal coiffé. Et par rapport à ça, oui, c'est toi et ta chance avec les gardiens. C'est vraiment une loterie, tout à fait. Parce que quelques temps après ça, il y avait une famille anglophone. Et le même gardien est arrivé. Il était heureux de parler anglais. Et il donnait beaucoup plus d'importance à cette famille-là qu'à d'autres. C'est toi et ta chance avec les gardiens, tout simplement.
Ouais, je trouve ça ouf parce que à chaque fois on dit non mais c'est hyper procédurier, c'est comme ça que ça se passe dans la prison, c'est la procédure, nanana, et en fait il y a plein de trucs qui font pas partie de cette procédure, et je trouve ça hyper hyper désœuvrant, quoi, parce que t'es là, moi je dois me référer à une procédure mais eux pas du tout.
Oui, mais moi ça je peux te répondre à ça, c'est-à-dire que chacun fait sa loi dans la prison, c'est chaque maton fait sa propre loi, chacun décide et c'est tout, c'est la loi de la jungle. Et ils l'ont adopté. Il n'y a pas photo. C'est à prendre ou à laisser. Et tu n'as rien pour te défendre. Tout simplement, c'est comme ça. C'est toi et ta chance par rapport au gardien. Ou tu tombes sur un gardien humain, ok, d'accord, moins robotisé. Ou tu ne tombes pas et puis c'est un qui est haineux ou je ne sais pas. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Je ne suis pas à leur place, heureusement, et je n'y serai jamais. Il n'y a pas photo.
C'est parmi nous, exception.
Oui, merci.
Mais en tout cas, oui, là, je trouve ça assez fort de se rendre compte que l'impact, ben, il est autant sur l'émotion que ça peut créer en toi d'enlever ton fils. Je me rappelle, comme tu m'avais dit, ils m'ont enlevé mon fils. Enfin, je me souviens des mots forts que tu avais dit. De aussi l'impact que le pouvoir exercé par les matons, ben, en fait, il s'exerce aussi sur les proches et à la moindre occasion. Et à la moindre mauvaise humeur, ben en fait, c'est vous qui ramassez quand même tout ça. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il y a un impact financier quand t'enlèves ton fils ou ton mari, est-ce qu'il y a un impact financier, en fait
Oui, tout à fait, parce que moi, perso, j'ai dû faire un crédit. Donc, sinon, je n'avais pas d'avocat, mais je voulais pas un... C'est pas que je suis contre les avocats Prodeo ou quoi que ce soit. Ils sont certainement très compétents. Mais je n'ai rien contre les avocats. Mais simplement, ce jour-là, il fallait faire vite. Parce que non seulement ils sont arrivés entre 3-4 heures du matin, comme je vous l'ai dit. Donc j'étais en pleine panique. On ne vous laisse rien faire, ni rien. Et le seul moment que j'ai pu avoir, c'était dès qu'ils m'ont enlevé mon fils. Dès qu'ils me l'ont enlevé, j'ai appelé ma nièce parce que je savais qu'elle avait une connaissance d'un avocat qui est payant, malheureusement. Mais bon, bah, tant pis, je ferai tout et n'importe quoi pour mon propre fils. Et je voulais dire que j'ai fait mon fils pas pour qu'on me l'enlève et pas pour qu'on le mette en prison. Ouais. Ça, jamais de la vie, quoi.
Ouais, c'était ça, tes mots, maintenant.
Oui.
Je me rappelle, ouais.
Oui. Tout à fait. Donc, d'où j'ai dû faire un crédit. Je ne suis pas d'une issue de famille riche, comme je vous l'avais dit, sinon j'aurais été ailleurs avec mes enfants. Donc, j'ai dû faire un crédit. Donc, c'est encore un truc négatif qui m'aide en... Encore un truc négatif, tout simplement. C'est la descente aux enfers et psychologiquement et financièrement et la totale, quoi. C'est le désarroi.
Bah en tout cas, moi j'ai envie de te dire, mais c'était pas un luxe ou un goût de luxe de vouloir payer ton avocat, parce que c'est clair qu'on est dans un système pénal où toutes les lois sont tellement dans un langage complexe qu'on est obligé d'être accompagné d'avocats, et qu'il y a même un système à deux vitesses qui a été créé où il est bien connu, quand on traîne un peu dans le système de la justice, que si tu veux vraiment être bien défendu, t'as intérêt à allonger la thune. Et donc ça, c'est pas...
Oui, enfin,
parce que je sens qu'il y a un peu...
Non,
un
je
truc
suis entièrement
de...
d'accord.
Mais c'est pas si toi qui es responsable
si tu,
de ça.
Si tu as un bon avocat, que tu allonges les billets, il n'y a pas de souci. Tu as la chance d'avoir que ton fils ou ton enfant soit libéré beaucoup plus tôt, en moins de temps, quoi. Mmh. En moins de temps, voilà, pour le sauver de cet enfer de prison, quoi, tout simplement.
Et j'ai l'impression aussi, tout à l'heure, tu me montrais la liste de ce que tu pouvais apporter, comme tu parlais tout à l'heure, mm-hmm. t-shirt, pantalon, machin, et c'est hyper réduit. Et en fait, tout le reste, ils peuvent que l'acheter en cantine. Et donc, ça coûte aussi. Si tu veux que ton enfant soit bien, tu dois investir dans la cantine, lui virer de l'argent.
Aussi. Donc, il te donne un numéro de compte et il faut l'envoyer. Et là, si par malheur, ton fils a oublié de faire la commande de sa cantine qui est normalement en principe le mercredi matin, et donc ils vont chercher ça le mercredi et ils envoient le mercredi ou jeudi, je ne sais plus, dans ces zones là donc si mon fils a eu une fois, il a eu le cas d'oublier de faire sa commande, il a rien eu pendant 2 semaines, même s'il avait l'argent sur son compte. C'est vraiment galère aussi de ce côté-là, voilà.
Ouais, c'est ouf de voir comment les coûts sont hyper multiples et que parfois on oublie de parler du vécu des proches alors que les répercussions sont aussi hyper fortes là, quoi. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de cette émission qui va porter sur la répression déjà avant la prison et entre les épisodes de prison et après, et quel impact ça a. On est toujours sur Radio Panique 105.4 FM et vous écoutez toujours Laisse pas béton avec Exception et Martin. Alors, on va discuter de ça avec toi, de la répression avant la prison. Mais on vous propose, pour introduire ce sujet, d'écouter tout de suite la parole de Latifa. Latifa, elle fait partie du collectif des Madrés et c'est un collectif de mères qui lutte contre les violences policières qui bordent leurs enfants, en fait. Latifa, elle vit à Saint-Gilles et à Saint-Gilles a été mise en place une police de proximité qui s'appelle UNEUS. Donc c'est un projet de la commune datant de 2012 qui vise à la prévention et à la sécurité dans la zone de police Bruxelles-Midi. Et elle parlera mieux que moi, on l'écoute tout de suite.
Au début, je m'intéressais beaucoup à la réinsertion des jeunes dans le quartier. En tout cas ici à Saint-Gilles, il y a quand même pas mal de délinquance et je voulais comprendre pourquoi ces jeunes faisaient de la délinquance. Et tu constates qu'il y a plein d'impacts qui font... parce que la jeune n'est pas délinquante. C'est tous les facteurs, tous les impacts au niveau familial, l'échec scolaire, la discrimination aussi, le racisme, tout ça sont des facteurs qui déclenchent quelque part un début de délinquance. Parce qu'à vrai dire, ces jeunes, ils n'ont plus leur place dans la société. Alors ils se raccrochent à la rue. Et à la rue, chacun joue un rôle, un sort de personnage fictif, où il se sent bien dans la rue, où il se sent entouré. Parce qu'il faut savoir que les jeunes, entre eux, ils s'aident énormément. Ouais. Tu vois, ils s'aident énormément, même psychologiquement et tout. Et se trouvent comme dans une bulle. Donc pour pouvoir les aider, il faut déjà instaurer une confiance, utiliser pas mal d'outils, parce qu'au début, j'avais été voir les ASBL de Saint-Gilles pour voir comment ils pouvaient les aider. Et j'ai constaté qu'ils n'étaient pas outillés pour les aider, ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes qui s'accrochent à plus grand-chose, parce qu'ils n'ont plus confiance en la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société ne fonctionne que dans la répression. Les politiciens, ils investissent énormément que pour la répression. Donc on va installer 15 caméras, c'est plus intéressant que d'aider un jeune. Ils n'ont plus leur place dans la société. Voilà, ils sortent de prison, ils n'ont qu'à se démerder. Alors que ce n'est pas vrai. Ok, tu as fait une erreur et tout. Mais je crois que chacun a droit à une deuxième chance. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la discrimination et les violences sociales, ça commence déjà en primaire et en secondaire. Il suffit que tu sois différent et que tes parents ont un problème d'expression et tout. L'enseignante, elle ne va pas se casser la tête. Elle va te diriger soit dans un enseignement spécialisé. Je veux dire, on est arrivé dans une société tellement capitaliste que même aider dans ton métier, tu ne le fais plus. Ces jeunes-là, ils savent à peine lire et écrire, ceux qui sortent de l'enseignement spécialisé. Pour moi, ils sont encore plus détruits psychologiquement. Et puis, il ne faut pas oublier que dans tous ces impacts de ces jeunes, il y a aussi les violences policières qui jouent un impact psychologique énorme. Donc, moi, je me dis que déjà, ça commence dans la scolarité. Comme tu dis, on a beau faire des efforts, le travail, c'est plus comme avant. Les formations, elles sont sélectives aussi. Donc, tu es vite expédié dans les formations. Donc, si t'as plus ta place quelque part, bah, tu te retrouves plus que dans la rue. Et dans la rue, souvent, si tu es d'origine maghrébin ou africain et tout, t'es les plus, t'es les cibles, t'es directement, one. Voilà, ouais. De la police. Et ça joue un impact encore beaucoup plus grave. C'est hyper violent. Donc si déjà t'as subi plein de violences sociales et que tu subis encore des violences policières, c'est la catastrophe, quoi. Mais c'est souvent ça, quand t'es humilié ou bien quand on te dit « Ouais, toi t'as fait que pour la prison et tout », tu le détruis complètement psychologiquement. Hein. Et ça, pour moi, c'est hyper dangereux. Depuis qu'ils ont instauré l'UNIS, t'as beaucoup de jeunes qui disent qu'ils subissent des violences policières. Et quand je te dis beaucoup de jeunes, c'est pas un jeune, hein, c'est... Sur, je sais pas moi, sur 100 jeunes, je veux dire la moitié, quoi. 50 jeunes qui subissent régulièrement. Donc, t'as 4 sortes de violences. T'as les violences physiques, t'as les violences verbales, psychologiques et sexuelles, quoi. Mais quand tu constates le projet de Unius en lui-même, parce que je l'ai lu, hein, en lui-même, il est vraiment bien, parce que c'est vraiment de la cohésion, vraiment dans tout le quartier, quoi. Donc, ils sont là pour aider, pour être à l'écoute, pour faire un peu de psychologie, pouvoir travailler en parallèle avec le service de la jeunesse, travailler en parallèle avec les communes. Mais ça ne se fait pas comme ça du tout. Bah, parce que déjà, les policiers qui travaillent pour... je veux dire, les policiers qui représentent UNEIS, la plupart sont racistes. Donc, ils ne sont pas faits pour être policiers, quoi. C'est pour ça que nous, on demande 3 objectifs bien précis. On demande l'évaluation externe de la brigade UNEIS. On demande aussi le suivi des formations initiales, donc comment ils sont formés, les formations initiales pour devenir policier et les formations continues. Et puis le troisième, le contrôle démocratique. On est plus pour le récépissé que pour la caméra là, qui met la...
Ah, le bodycam.
Ouais, le bodycam. Mmh. Parce que le bodycam, si tu veux...
C'est quoi l'autre récépissé?
Le récépissé, si tu veux, c'est un papier qui te donne à chaque fois... que c'est un genre de... comme un PV que tu reçois sur place. Mmh. Donc grâce à ce papier, s'il te contrôle par exemple 4 fois pour ta carte d'identité, à chaque fois, il est obligé de te donner un papier. Donc toi, tu sais dire, voilà... ce même jour, 4 fois.
J'ai été contrôlée.
Tandis que le bodycam, ça peut être dangereux parce que tu vois, c'est le policier qui utilise quand il le semble nécessaire, tu vois. Nous, on a fait 3 interpellations. Nous, ça veut dire, c'est le collectif de Madré. Donc, on est un groupe de mamans qui, justement, le collectif a été créé pour justement faire de la réinsertion pour nos enfants, pour pouvoir les aider et tout. Et on a constaté, moi j'ai constaté que les jeunes, quand je voulais les aider et tout, ils me parlaient tout le temps de UNEIS, on ne savait rien faire avec eux. On ne savait pas faire de projet avec eux, ils étaient trop dans la haine et la colère. Et puis, à part après, quand j'ai vu que ce n'était pas un jeune, mais plusieurs jeunes, j'ai fait appel au délégué général des droits de l'enfant, Bernard DeVos, qui est venu ici à Saint-Gilles avec son équipe et qu'ils ont essayé de récolter des témoignages. Donc sur 50 jeunes, on a pu récolter 20 témoignages de façon anonyme. Et c'est grâce à ce rapport que j'ai pu faire ma première interpellation. On est plusieurs, hein, collectifs. T'as Justice pour Mehdi, qui ont aussi... c'est Ayoub, le frère de Mehdi, qui a pas mal de projets et il a des objectifs très intéressants. Tu as Justice pour Maoudo aussi. Et on essaie de travailler en parallèle. Donc on s'est dit, quand eux font une interpellation, nous aussi on fait une interpellation. Parce que les interpellations, pour moi, c'est hyper important parce que c'est la parole du citoyen démocratique. Donc c'est ça qui te permet de dire ce qui ne va pas, ce qu'on peut mettre en place et tout. Donc pour moi, c'est un outil hyper important en tant que citoyen. Mais moi, je trouve que, en tout cas, c'est mon opinion, je trouve qu'il faut tous travailler ensemble. Parce que chacun peut apporter un outil à l'autre pour pouvoir justement changer le système. Parce que si tu veux, c'est le système qui... je parle de Saint-Gilles, hein, mais quand je parle de Saint-Gilles, je voudrais que ça se fasse aussi dans les autres communes. Ici à Saint-Gilles, j'essaie de sensibiliser tous les gens qui ne subissent pas les violences policières. Au début, j'ai eu quand même un peu dur, parce que tu vois, je suis tout stigmatisée, quoi. Tu vois, tu parles de délinquants, tu parles de réinsertion, ouais, c'est encore une merde de délinquants, tu vois. T'as tout de suite cette étiquette de qu'est-ce qu'elle raconte, la police fait bien son travail. Des fois, c'est ça le problème avec la police de proximité. Des fois, il y a un fait, donc on sait qu'il y a de la délinquance. On le nie pas, on le reconnaît. Justement, on veut trouver une solution pour cette problématique. Il suffit qu'il y ait un fait qui est fait, les policiers connaissent tous les jeunes. Il suffit que tu es habillé, ils ont tous la même façon d'être habillés. Ils te prennent, ils vont pas faire une enquête, voir si c'est bien toi ou pas toi et tout. Ils te prennent, ils savent que tu es déjà reconnu, que tu as déjà fait du PPJ, c'est-à-dire prison pour mineurs. Facilement, tu peux aller refaire de la prison ou bien faire de la prison pour un fait que tu n'as pas fait.
Et ils justifient ça parce qu'ils disent qu'on est une police de proximité.
Voilà, on les connaît bien. Tu vois ? Et ça, c'est dangereux. Le problème, c'est que le projet qu'il a fait Charles Piquet, on te prend, tu passes direct au parquet, tu passes au juge, tu vas à prison, tu vas UPPJ. Tu vois, ça va vite. Ça, c'est avec Inéus, c'est le projet pilote. Donc, c'est plus comme avant. Directement, ils ont un travail, ils font un travail direct avec la juge. Et ça va très vite. Il y a des jeunes qui vont très vite en prison pour un fait qu'ils n'ont pas fait. Et les jeunes, pourquoi ils ne témoignent pas? Parce qu'ils ont peur énorme de la répression. Ils préfèrent faire profil bas que d'aller demander leurs droits. La dernière interpellation, c'est des citoyens de Saint-Gilles. Donc c'est un certain Théo qui a fait la quatrième. Donc je l'ai aidé. Je veux dire, on s'est mis ensemble, mais je les ai laissés gérer eux-mêmes. Leur interpellation, parce que je dis, moi j'en ai déjà fait trois. Et il y a beaucoup de choses qui ont bougé et tout. On a pu mobiliser plus de 300 personnes qui sont venues en interpellation, c'était énorme. Ça a vraiment fait un impact au niveau de la commune, au niveau du bourgmestre. Et notre communauté n'était pas là, alors que c'est elle qui subit, quoi. Donc tu vois la répression, comment elle est, le fait d'avoir peur, le fait d'être reconnue, tu vois. Moi déjà, je le fais. Je vais à la rencontre des gens. Tu vois, ça va être un travail de rude haleine, mais c'est un travail qu'il faut absolument faire. Qu'à un certain moment, tu dois dire stop, on n'en peut plus, quoi. Quand tu as des familles où tu as 4 garçons qui font que de la prison, il y a un certain moment où. Ouais. Donc, à un certain moment, je crois qu'il faut être militant et dire non, stop. Et pas toute seule, mais nombreux. Si toi tu dis stop, une autre dit stop, une autre dit stop, et à un certain moment dans ta vie. Si tu veux que les choses changent dans la société, ben, il faut être militant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Merci beaucoup, Latifa, de nous avoir expliqué tout ça. Vraiment, on te remercie super fort. Ton vécu, ton avis, c'est super cool. Et Exception, est-ce que tu as envie de réagir là tout de suite à ce que Latifa a dit?
Bah, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Je confirme, il n'y a pas photo. Elle a très bien expliqué... Le cas de nos enfants, de nos parents, de nous-mêmes, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Voilà.
Et ce qu'elle disait sur la scolarité, comment on met dans l'enseignement spécial directement, sans expliquer aux familles c'est quoi l'enseignement spécial et tout ça, comment on expédie des enfants qui ont des difficultés ou qui juste réagissent différemment à la scolarité?
Oui, c'est véridique aussi. C'est simplement, il y a certaines institutrices qui n'ont pas envie de se donner à fond pour aider nos enfants ou prendre un peu plus de temps pour leur expliquer, on va dire, 5-6 fois. Ça les fatigue et alors d'office, ils se disent « Bon, ben, ton fils a un problème. » Voilà, c'est juste ça, ton fils a un problème. Du coup, toi, tu as confiance à l'enseignant ou l'enseignante. Tu dis « Oui ». C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elle va mentir? Tu as une confiance totale aveugle à l'enseignement, à l'État, on va dire. Tu es aveuglé. Tu dis oui, bon ben c'est l'État, c'est l'autorité, c'est voilà. Donc t'as vraiment confiance.
Ils devraient savoir quoi.
Tout à fait. Donc ils vont pas se tromper. Tu dis oui, c'est vrai. Alors bon ben voilà, ok. Moi du coup c'est ça qui m'est arrivé. Mais maintenant, cette confiance, je ne l'ai plus du tout. Hein. Donc pour mes futurs petits-enfants, comme on dit chez nous, Inch'Allah, je te jure que je ne les mettrai pas en enseignement. Il n'y a pas poteau, ça c'est clair. Voilà.
Oui, moi ça me... Enfin, je trouvais ça super comme témoignage et ça m'a fait penser à plein de choses que tu as racontées ici, mais que tu nous as racontées aussi en dehors. Et je trouve que tout ça, c'est fort par rapport... à comment on peut accuser en fait les parents d'être responsables de votre enfant en collant en plus une étiquette de délinquant et tout, et que en fait là, ben en fait ce mécanisme de l'enseignement et comment on stigmatise les gens dès très tôt, ça fait partie de ces mécanismes qui en fait non, c'est pas les parents qui sont juste responsables. À partir du moment où tu mets un enseignement de merde avec des étiquettes vraiment scandaleuses, mais c'est pas que les parents. Et je trouvais que la police rentre aussi là-dedans, dans le sens où tu mets des brigades qui harcèlent, qui foutent la haine, qui contrôlent 10 fois plus. En tout cas, quand j'entendais Latifa et dans ce qu'on peut rencontrer, ben, c'est clair, ça fait partie des mécanismes qui vont pousser les gens qui sont en fait plus responsables de l'incarcération que les parents, parfois, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que par rapport, quand ils disent que c'est nous, les parents, qui sommes fautifs de l'éducation de nos enfants, c'est là qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'ils sont en grande majorité où ils sont à l'école. C'est eux qui font l'éducation de nos enfants. C'est eux qui les rabaissent, qui leur disent oh, « t'es nul, toi, c'est pas la peine de continuer ». Mais ce truc-là, c'est vrai, parce que bien avant la génération de mon fils, de nos enfants de maintenant, elle date depuis des années, des siècles, des siècles. Parce que moi, même dans ma propre scolarité même, j'ai vu des inégalités incroyables. Incroyables, mais j'étais jeune, je ne comprenais pas. Mais maintenant, en tant que mère, bien sûr, je comprends. Mais je me suis dit non, ça devait être justement une exception. Ça devait être une enseignante qui était un peu malade ou quoi. J'ai pas fait attention, donc j'ai pas généralisé. Mais apparemment, oui, je généralise. Et comment... je me trompe pas.
Et comment tu vois, toi, l'intervention de la police ? Est-ce que avec ton fils, tu as été un peu confronté à l'intervention de la police, l'intervention journalière ?
Oui, souvent, il passait à la maison et il disait « Est-ce que votre fils est là ?» Je disais non. Bah oui, mon fils a le droit d'aller où il veut, quand il veut. Il n'est pas en prison, je suis désolée. Avec moi, il est libre. Et il me disait, oui, est-ce qu'il fréquente un tel ? Je dis, mais ça, posez-lui la question. Quand vous le voyez, posez-lui. Et souvent, il venait, il me disait, maman, moi, je ne comprends pas par rapport à ce que la Tifa disait. Bon, ben, c'est vrai, chaque fois, on l'appelle, quand on l'interpelle, contrôle d'identité. Contrôle d'identité, contrôle. Il me dit, maman, j'en ai marre, ça fait au moins trois ou quatre fois sur la journée que le policier. Mais s'il y a un Pierre-Jean à côté, eh ben non, on ne peut pas le lui demander, tout simplement. Et s'il a le malheur d'avoir oublié sa carte d'identité, ou bien il la perd, ça, c'est ce qui lui arrive aussi. Moi, je lui ai fait une photocopie de sa carte d'identité, et vous lui dites, ma mère ne me l'a pas donnée parce que je perds tout le temps ma carte d'identité, et moi j'en ai marre. De renflouer les caisses des communes et qui fait partie des flics aussi, hein, y a pas... ça c'est sûr. Hein.
Ouais. Mais ouais, c'était super. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au rôle de l'école et cette espèce de rôle d'éducateur qu'ils prennent pas toujours à cœur et qu'ils prennent dans une direction qui fait de la violence sociale, quoi, très tôt, comme si. Le disait Latifa. Et qu'en fait, ce qu'elle dit aussi, c'est que les flics, ils reprennent ce rôle avec une sorte de police de proximité où ils sont censés jouer les psychologues ou les éducateurs et tout ça. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait juste un argument en plus pour les flics de dire, tu dois même pas... Enfin, c'est bon, faites-moi confiance, je sais que c'est lui parce que je suis proche de lui. Et c'est ça, la proximité, elle apporte un danger aussi pour les jeunes des quartiers.
Oui, tout à fait. Ils sont passés pour psychologues... Pour aider, mais non, eux, c'est juste pour avoir un quota, c'est tout. C'est juste pour avoir un quota et pour qu'eux puissent aller avoir le pouvoir en plus de devenir commissaire ou plus gradé que ça, quoi. Mm-hmm. C'est juste pour leur propre intérêt à eux, tout simplement. Ils s'en foutent de la vie de nos enfants.
Quoi, tu voudrais dire que la police n'est pas là dans l'intérêt collectif, exception.
Non, mais alors pas du tout. Bah, non, pas du tout. Mais tu peux. Il y a pas de souci. La prison n'est pas loin. Tu peux m'emmener. J'irai leur dire bonjour. Leur faire un gros câlin.
Bon bah c'est parti, on y va.
Oui.
Bah ouais, en effet, c'est déjà bientôt la fin de cette sixième émission de L'Espa Béton. Donc pour finir, un mini point agenda avant de se quitter. Alors, ce mercredi 8 juillet à 9h, il y aura un rassemblement pour Maouda. Donc, c'est une fille de 2 ans qui a été assassinée par la police dans le cadre d'une traque aux migrants. Et ce rassemblement, il aura lieu au tribunal de première instance du Hainaut à Mons. Et le comité Justice et Vérité pour Maouda appelle à ce que l'affaire passe aux assises. Les informations sur l'événement, vous pouvez les trouver sur le site Indymedia Bruxelles.
Alors le dimanche 12 juillet, il y a aussi une grosse journée à 14h à Scarbeck, place Collignon. Il y a une marche pour la régularisation des sans-papiers. Et le même jour, donc toujours dimanche 12 juillet, eh bien on vous invite chaleureusement au foyer de lutte anticarcérale, donc à la FLAC, au 10 rue des Orchidées à Anderlecht. Dès 15h, il y aura plein d'activités pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Et ça finira par une projection de César doit mourir avec le Cinéma Nova. Et donc c'est un film joué par des détenus. Et vous trouverez aussi les informations sur notre page.
Qui est la claque-no-prison. Et exception, est-ce que tu veux rajouter un truc?
Non, pas spécialement. Merci. Merci de m'avoir écouté.
Vraiment, merci à toi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau avec nous pour parler de ton vécu, de la tôle et tout le schmilblick, comme t'as dit.
Ah oui.
Et pour finir, on va vous faire tourner un son que Latifa, elle conseillait pour illustrer le parcours de certains jeunes de quartier populaire. Et ça sera la chanson Frère de Azedine. Mais avant ça, on lance tout de suite les...
Ça, c'est les dédicaces.
Ça, c'est les dédicaces.
Ça, c'est cool.
C'est le time des big up. Donc, faire passer des mots vers l'intérieur des prisons, vers l'extérieur, à qui vous voulez. Exception, à toi la parole, vas-y.
Ah ben, j'embrasse tous les détenus. Je leur dis un bon courage. Battez-vous, comme dans la chanson de Mike Brandt. Mais enfin bon, ben moi je suis de la vieille école, alors écoutez la crime, je ne sais pas ce qui est de votre génération. Tout ce que je me rappelle de la chanson de la crime, c'est juste la salade, mais c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, au revoir, bonne soirée.
Ben moi, big up toujours à tous les détenus. J'ai vraiment une grosse pensée par rapport aux visites, au manque de visites. Et j'espère vraiment que là, on va foutre la pression à toutes les autorités pour que les visites reviennent. Et big up à toutes les personnes qui sont victimes des répressions en rue. On va en venir à bout.
Et big up aussi à toutes les proches, tous les proches qui sont là devant les prisons tous les jours, qui continuent d'être là malgré qu'ils ne peuvent pas faire de bisous. D'ailleurs, bonne chance, exception pour faire un bisou à toutes les détenues. Hein.
Non, mais ça sera fait.
D'office. Beaucoup. Hein.
Et comment?
Et vraiment, vous êtes trop forte. Vraiment, gros, gros, gros big up. Vive les mères, quoi.
Ouais, merci à fond, exception pour
merci.
Tout.
Merci. Merci à vous.
Moi, ce que je leur dis, c'est que dans la, c'est-à-dire le bonheur, c'est eux qui sont les seuls. C'est-à-dire le bonheur, la clé du bonheur, c'est eux qui sont maîtres de leur bonheur. Et quels que soient les parcours qu'ils ont fait et tout, il y a toujours moyen de se rattraper. Et que chaque citoyen, je veux dire chaque être humain, a sa place dans la société à 100%. Et que chacun peut jouer un rôle pour une société meilleure. Donc, se remettre en question et puis dire que le bonheur, c'est moi. C'est moi qui le gère.
Même plus un regard, il voit les choses en grand. Dans sa tête, il est ailleurs. Il veut pas imiter les grands. Il veut prouver que c'est lui le meilleur. Il a gagné son respect tout seul. Des trois frères sur qui il se boussole. Le bullshit, c'est ça qu'il consomme. Il voit les choses en grand. Dans sa tête, il est ailleurs. Il veut pas imiter les grands. Il veut prouver que c'est lui le meilleur. Il a gagné son respect tout seul. Des trois frères sur qui il se boussole. C'est ça qu'il consomme. Ça part en équipe qui braque en 4 temps. Prêt à tout pour de la maille. Un décossif, ils ont le seum quand ils te voient graille. Tu penses à cette journée, tu vois qui sont les vrais, qui sont les faux. T'as les poches remplies, à tes pays y'a que des folles. Toujours en bas de la tête, t'as l'air un peu perdu. Tu te traîne avec les mêmes têtes. Business, trafic de postules, des fichiers, Tu sais plus quoi faire, t'as voulu rentrer dans la cour des grands. Perquise, t'as fini au HEPS. Il voit les choses en grand, dans sa tête il est ailleurs. Il veut pas imiter les grands, il veut prouver que c'est lui le meilleur. Il a gagné son respect tout seul, de trois frères sur qui il se boussole. Me bullshit, c'est ça qu'il consomme. Il voit les choses en grand, dans sa tête il est ailleurs. Il veut pas imiter les grands, il veut prouver que c'est lui le meilleur. Il a gagné son respect tout seul, de trois frères sur qui il se boussole. Me bullshit, c'est ça qu'il consomme.